nous nous retrouvons pour une série
consacrée. Nous attachons à quatre faits marquants de votre vie.
Passer une demi-heure ensemble pour
Focus braque aujourd'hui son projecteur.
Focus. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Hélène Renard.
On retrouve Paul Caro, correspondant de l'Académie des sciences, qui, sur Canal Académie, se fait journaliste pour interviewer l'un de ses confrères de l'Académie des sciences.
Monsieur Bernard Derrida, vous venez d'être élu à l'Académie des sciences. Vous êtes un spécialiste de la physique statistique. Comment pouvez-vous relier les événements physiques qui se produisent à une échelle microscopique aux propriétés observées dans notre monde macroscopique?
Le but de la physique statistique est de comprendre, à partir des lois d'interaction des atomes à l'échelle microscopique, ce que l'on observe à l'échelle macroscopique. Par exemple, à partir de la façon dont interagissent deux molécules d'eau entre elles, on voudrait savoir si, à la température ambiante, cette eau est liquide, à l'état de vapeur d'eau ou bien de la glace. Comment, à partir d'une interaction microscopique, on en déduit les propriétés à grande échelle, par exemple les lois de l'hydrodynamique ou d'autres propriétés de grande échelle. Alors, on peut imaginer de le faire pour des atomes, pour des aimants élémentaires comme des spins, et se poser la question de savoir, étant donné la façon dont deux aimants élémentaires interagissent, si le système va rester aimanté à grande échelle pour former un aimant ou au contraire être un système paramagnétique sans aimantation. On peut le faire pour des systèmes chargés et se poser la question, est-ce que le système va être à grande échelle un isolant ou un conducteur, et ainsi de suite.
Que faut-il ajouter aux propriétés qui caractérisent la connaissance des lois d'un système en équilibre pour comprendre un système hors d'équilibre?
Alors, d'abord, ce qui caractérise les systèmes à l'équilibre, c'est leur invariance par un renversement du temps. Si on prend un système qui est à l'équilibre et qu'on filme son évolution, on imagine par exemple qu'on serait capable de filmer l'évolution de la trajectoire de chacun des atomes à l'intérieur de ce système, eh bien, si on filme cette évolution et qu'on se passe le film dans un sens ou on passe le film en sens inverse, les deux histoires vont paraître aussi réalistes l'une que l'autre. Alors, ce qui se passe, c'est que pour décrire un système à l'équilibre, on a compris depuis plus d'un siècle, avec les travaux de Maxwell, Boltzmann, Gibbs et tous ceux qui les ont suivis au cours du XXe siècle, que la seule propriété pertinente pour décrire un système à l'équilibre est la connaissance de l'énergie de chacune des configurations microscopiques. Donc, quand on se donne cette énergie, on est capable de dire si à l'équilibre, le système sera un fluide, un solide, un isolant, un conducteur et ainsi de suite. Pour caractériser les systèmes hors d'équilibre, il faut ajouter à la connaissance de cette énergie des propriétés supplémentaires, comme par exemple la façon dont le système est couplé avec le monde extérieur, des propriétés plus détaillées sur sa dynamique, et ainsi de suite. Donc l'énergie n'est plus la seule quantité nécessaire pour décrire les systèmes hors d'équilibre. Alors, comme exemple de systèmes hors d'équilibre, les plus simples sont des systèmes qui seraient en contact. Vous prenez un morceau de métal en contact avec deux thermostats des températures différentes et vous pouvez vous poser la question de savoir, connaissant les interactions microscopiques entre les atomes, comment ce matériau, comment ce morceau de métal va conduire la chaleur entre ces deux thermostats. Un autre exemple est celui de la vie courante, de l'électricité qui passe dans les fils. Vous avez deux réservoirs de particules à des potentiels chimiques ou à des densités différentes et vous vous posez la question de savoir, à partir des interactions microscopiques, comment les particules vont partir d'un réservoir pour aller dans l'autre et conduire ainsi l'électricité ou la matière.
Pouvez-vous donner quelques exemples de systèmes désordonnés importants en physique?
Les systèmes désordonnés, ce sont des systèmes qui ont différentes variables qui évoluent avec des échelles de temps différentes. Donc, un des exemples les plus simples est celui d'un alliage. Vous imaginez que vous avez des atomes, certains sont magnétiques, d'autres ne le sont pas, qui sont à peu près de la même taille, et puis vous fabriquez avec ces atomes des alliages. Un alliage est à l'intérieur de cet alliage, les atomes qui sont magnétiques vont se positionner à des endroits totalement aléatoires à l'intérieur de cet alliage. Si vous essayez d'étudier un tel alliage, eh bien, ce qui va se passer, c'est qu'il y a deux échelles de temps. Il y a une échelle de temps courte sur laquelle les atomes magnétiques vont pouvoir arranger leur aimantation, réorienter leur aimantation. Et puis, il y a un temps long sur lequel les atomes magnétiques vont se déplacer à l'intérieur de cet alliage. Et quand on étudie un système désordonné, on suppose qu'il y a ces variables qui ont un temps caractéristique très long, qui n'ont essentiellement pas le temps de bouger, alors que les autres variables, comme les propriétés magnétiques, ont le temps de se mettre en équilibre. Alors, il y a un certain nombre de propriétés des systèmes désordonnées qui sont tout à fait surprenantes. Un exemple est celui des électrons qui se déplacent dans un milieu avec des impuretés à des positions aléatoires dans ce matériau. Alors, ça a l'air d'être un problème académique, mais en fait, c'est le problème de la conduction d'électricité de la loi d'Ohm. On apprend tous à l'école que quand on fait passer du courant à l'intérieur d'un conducteur, il y a de l'énergie qui est dissipée, qu'il y a une certaine résistance. Mais si on essaye de comprendre cette résistance à partir des interactions microscopiques entre les atomes, c'est une affaire beaucoup plus compliquée et qui demande des outils théoriques beaucoup plus sophistiqués. Alors, une découverte qui a été faite à la fin des années 50 par Phil Anderson est celui de la localisation. Alors, il s'est posé la question d'un seul électron qui se déplace, donc une particule quantique, un électron qui se déplace dans un milieu où il y a des impuretés aléatoires. Et une de ses grandes découvertes a été de montrer que quand la dimension de l'espace est petite, en particulier quand on est à une dimension, eh bien cet électron ne peut jamais passer, c'est-à-dire que la résistance du matériau va toujours augmenter exponentiellement avec la taille du système, contrairement à ce que l'on voit dans la vie courante. Donc, si le système est très long et unidimensionnel, les électrons sont toujours localisés. Et ça montre un effet tout à fait spectaculaire du désordre, parce que même si les impuretés sont distribuées de manière aléatoire, sont très petit nombre et ont des effets très très faibles sur l'électron, eh bien, malgré tout, un électron ne va jamais être capable de passer à l'intérieur d'un matériau unidimensionnel. Un autre exemple de système désordonné qui a été énormément étudié depuis une vingtaine d'années est celui des verres de spin. Alors, les verres de spin, ce sont des matériaux magnétiques, il y a des petits aimants élémentaires à l'échelle atomique, et quand on refroidit ces matériaux, eh bien, ces petits aimants élémentaires se mettent à se bloquer dans des directions aléatoires, un peu comme dans un verre, les atomes prennent des positions aléatoires quand on refroidit un verre. Alors, ces problèmes de verre de spin ont été à l'origine de théories qui ont été développées au cours des 20 et 30 dernières années. Et en fait, ces théories ont eu beaucoup de retombées sur la théorie des systèmes complexes ou sur les problèmes d'optimisation. Pour la raison suivante, c'est que quand on refroidit ces verres de spin, chaque aimant élémentaire a tendance à essayer de trouver la direction dans laquelle pointer qui est optimale par rapport aux directions des autres atomes magnétiques élémentaires avec lesquels il interagit.
Dites-moi, la physique statistique s'applique à des problèmes très variés comme les polymérisations, la croissance des surfaces ou le trafic automobile. Comment peut-on aborder des problèmes qui se déploient dans des contextes très différents avec les mêmes outils mathématiques?
Alors, la physique statistique a pour point de départ la connaissance des interactions entre atomes à l'échelle élémentaire et elle essaye de déduire de ces interactions à l'échelle microscopique les propriétés à grande échelle d'un système. Donc, typiquement, comme je le disais tout à l'heure, si vous prenez deux atomes, deux molécules d'eau ou deux atomes d'un gaz, vous connaissez l'interaction entre ces atomes, vous voulez déduire les propriétés à grande échelle de ce système, savoir s'il va se comporter comme un liquide, comme un gaz, comme un solide, et ainsi de suite. Bon. Alors, cette idée de partir des interactions à l'échelle microscopique et de déduire les propriétés à grande échelle, vous pouvez très bien l'appliquer à toutes sortes d'autres domaines. Un exemple est celui du trafic. Imaginez que je sache la façon dont un conducteur réagit à ce qu'il voit dans son environnement proche, c'est-à-dire la distance par rapport au véhicule qui le précède, la vitesse de ce véhicule qui le précède, sa propre vitesse. Donc, il a ces trois variables à sa disposition et il ajuste sa vitesse propre en fonction de ces trois variables. Imaginez donc que j'ai une fonction de trois variables pour chaque conducteur et que je mets beaucoup de conducteurs en présence sur une même route. Et maintenant, est-ce qu'on est capable de déduire à partir de la façon dont agit chacun des conducteurs, les propriétés à grande échelle de cet ensemble de voitures et essayer de comprendre si le trafic va être fluide, encombré, s'il va y avoir des embouteillages et ainsi de suite. Donc, dans chacun des cas, que l'on passe des atomes à la grande échelle ou d'un automobiliste individuel au trafic à grande échelle, eh bien, il s'agit d'être capable de déduire des lois de grand nombre à partir des interactions élémentaires qui sont supposées connues. Alors, il y a bien d'autres exemples qui concernent en particulier les problèmes de polymérisation. Quand vous imaginez que vous avez un certain nombre d'espèces chimiques en présence dans une solution et que ces espèces chimiques se mettent à réagir pour fabriquer des molécules qui sont de plus en plus longues, eh bien, vous allez avoir des lois statistiques et vous pouvez essayer d'utiliser également les idées de la physique statistique pour décrire les propriétés de ce système en train d'évoluer. Et en particulier, dans les problèmes de polymérisation, vous pouvez vous demander si à grande échelle, le système va avoir l'air d'un fluide ou au contraire va avoir l'air d'un gel ou essentiellement avec des caractéristiques de nature très différente.
On peut considérer que dans le problème de l'embouteillage, la situation embouteillée est une phase et la situation fluide une autre phase.
Absolument.
Et le passage de l'un à l'autre,
c'est une transition.
Une transition de
absolument.
Phase. De même que l'eau devient glace.
Exactement comme vous avez une onde de choc dans un fluide, vous avez deux densités et puis se crée une onde de choc dans un fluide. Les voitures arrivent dans une phase fluide et arrivent sur une région embouteillée, à l'interface entre ces deux régions, il y a un choc qui se déplace avec une certaine vitesse et c'est essentiellement les mêmes équations.
Donc vous avez là une description, à partir de la physique statistique, une description de plusieurs domaines de la structure du monde, si on peut dire, ou la structure des systèmes collectifs, qui est un petit peu général et qui peut être appliqué, j'ai vu dans vos publications, même aux arbres généalogiques. Mais je suppose que nous n'avons plus le temps d'en parler, mais c'est quand même une question qui montre toute la généralité des méthodes mathématiques que vous avez développées. Merci, M. Derrida.